Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis le dernier extrait du livre de Colm Toibing, Nora Webster. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau roman. Nora n'était pas sûre de ce qu'elle devait mettre pour son entrevue avec les gibnets. Si elle était trop habillée, ils pourraient croire qu'elle ne manquait de rien, qu'elle se considérait leur égale et leur rendait une simple visite de politesse. Mais elle ne pouvait pas non plus se permettre d'y aller en tenue de tous les jours. Ce dilemme ne faisait d'ailleurs que commencer. Si l'embauche se concrétisait, les autres employés verraient en elle une amie de William et de Peggy Gibney. Certaines parmi elles y travaillaient déjà de son temps, mais elle n'était restée en contact avec aucune. Elle était certaine que son retour serait mal perçu. Une fois sa décision prise de se rendre en voiture jusqu'à la place de la gare pour ne laisser à personne l'occasion de commenter sa nouvelle coiffure, elle se sentit mieux et cessa d'avoir peur. Elle examina sa garde-robe, choisit un tailleur gris, un chemisier bleu foncé, et décida qu'elle mettrait ses meilleures chaussures. Elle ne pouvait pas se permettre de discuter salaire en prenant le thé. Elle ignorait même s'il comptait lui faire une proposition. Mais dans un cas comme dans l'autre, il était important de ne pas arriver chez eux en ayant l'air d'une personne dans le besoin. Ce fut Madame Vélan qui lui ouvrit et la précéda dans un vaste salon situé à droite de l'entrée. Nora vit des meubles sombres, très rembourrés, des murs rangés de tableaux, le tout baignant dans une demi-pénombre, bien qu'on fût en milieu d'après-midi. L'unique fenêtre, tout en hauteur, laissait à peine entrer sa lumière. Peggy Gibney se leva de son fauteuil. Quand son cardigan glissa de ses épaules et que Madame Vélan se précipita pour le ramasser, elle ne le remercia pas, comme si le geste faisait partie du service dû à une femme de son rang. Elle fit signe à Nora de prendre place dans le fauteuil, face au sien, et se tourna vers Madame Vélan. Magie, voudriez-vous appeler le bureau et prévenir Monsieur Gibney que Madame Webster est arrivée ? Pendant ce temps, les souvenirs de Nora affluaient. Quand Peggy était tombée enceinte, William et elle n'étaient pas mariés, et les parents de William désapprouvaient leur alliance. Le bureau de Nora jouxtait celui du vieux Gibney. Un jour, elle avait entendu dire à William que Peggy n'avait qu'à prendre le bateau pour l'Angleterre, accoucher là-bas et trouver une famille d'adoption dans la foulée. William était ressorti blême du bureau, et Nora avait cru qu'il irait transmettre le verdict à Peggy. Au lieu de cela, il l'avait épousée. Peggy avait donné naissance à son bébé dans une maternité de la ville. Les parents de William avaient fini par s'habituer à elle et ils s'étaient attachés au petit. Et voilà qu'à présent, Peggy Gibney trônait dans ce salon et s'adressait à Nora comme s'il n'avait jamais régné la moindre incertitude quant à son statut. Elle avait aussi perdu les inflexions insouciantes propres aux habitants de la ville. Elle s'exprimait sur un ton réfléchi, légèrement préoccupé. « Eh bien, dit-elle, comme si elles avaient été en pleine conversation, je dois avouer que je ne comprends pas comment les gens font pour s'en sortir, avec tous ces impôts et le coût de la vie. » Nora l'interrogea sur son frère et ses sœurs, mais il apparut que c'était une mauvaise entrée en matière. « Ils vont bien, Nora, ils vont bien, chacun a sa vie, n'est-ce pas ?» Nora en déduisit qu'il n'était guère invité dans cette maison. En revanche, quand elle l'interrogea sur ses enfants, Peggy s'illumina. « Ah ! William tenait absolument à ce que chacun soit diplômé avant de revenir travailler dans l'entreprise. C'est important de disposer d'une expertise. » Elle prononça le mot « expertise » avec une lenteur étudiée. « Alors, William Junior est expert comptable. Thomas est expert en productivité et Elisabeth a suivi une filière commerciale dans l'un des meilleurs instituts universitaires de Dublin, si bien qu'ils sont tous autonomes maintenant. C'est formidable, Peggy. Nora pensa à la vieille Madame Lewis de Mill Park Road, qui ne savait parler que de la carrière de ses enfants, et concluait chacun de ses monologues en disant qu'elle allait tout faire pour que Christina, sa Benjamine, devienne sténodactylo. Là, dans la pénombre guindée du salon de Peggy, elle dut se faire violence pour réprimer un fou rire. Heureusement, Peggy changea de sujet. « On me dit qu'il y a beaucoup de transformations en ville. Je ne sors pas beaucoup et nous allons à Rosslare dès que nous en avons l'occasion. C'est très calme là-bas, mais peu importe où je suis, j'ai toujours trop à faire. » Nora ne savait plus qui lui avait raconté que Peggy employait une bonne à temps plein en plus de Madame Vélan. « Je n'arrive pas à convaincre William de prendre de vraies vacances. Oh, je le connais, il ne cesse de s'inquiéter pour tout. Alors il fait des allers-retours en voiture. Ce ne sont pas ce que j'appelle des vacances. » Fit son entrée, il parut à Nora plus petit que dans son souvenir. Il portait un costume sombre. En lui serrant la main, elle se demanda s'il souffrait encore de la façon dont son père s'était comporté avec lui autrefois, en le retirant de l'école à 16 ans, en le payant une misère pendant des années et en le traitant d'imbécile en public. Mais son père était mort depuis longtemps. William avait hérité et ce passé était peut-être effacé de toutes les mémoires sauf de la sienne. « Merci d'être venu, » dit-il en s'asseyant, pendant que Madame Vélan apportait le thé et les biscuits. « C'est aimable, très aimable à vous. » Il parlait avec distraction, comme si ses pensées glissaient déjà vers un sujet plus grave et plus urgent. Nora le dévisagea avec calme. Elle n'allait pas le remercier de quoi que ce soit. « Mon père disait toujours que vous ne commettiez jamais la moindre erreur et que personne ne pouvait se comparer à Greta Whitman ou à Nora Webster, même quand tout allait bien. Il avait l'habitude de dire « Si Nora et Greta étaient encore ici, on n'en serait pas là. » « Oh, ils vous tenaient en haute estime, renchérit Peggy. Et quand ils étaient encore au lycée, William Junior et Thomas parlaient toujours de leur professeur, Maurice Webster, et ce n'était que des éloges. Je me souviens d'un jour, Thomas était fiévreux, nous voulions tous qu'il reste au lit. Mais lui ne voulait rien entendre, car il avait 2 heures de comptabilité ce jour-là avec M. Webster et pas question de les manquer. D'ailleurs, quand il a eu son diplôme à Dublin, le fait est qu'il ne voulait pas le lâcher là-bas et qu'il a eu de très belles propositions. Nous lui avons conseillé de bien réfléchir, mais il a préféré rentrer. Même chose pour William Junior. Avec Elisabeth, on ne sait pas. Elle serait capable de finir n'importe où. C'est elle que nous devons avoir à l'œil.
Thank you.
Il y avait quelque chose d'un peu forcé dans la loquacité de Peggy, sa liberté de ton, cette façon péremptoire de parler d'elle et de ses enfants comme d'un sujet d'admiration évident et universel. Nora crut sentir qu'il s'agissait surtout de la rabaisser par comparaison. William employait une centaine de personnes au bas mot. Elle pouvait concevoir que Peggy ait eu du mal à rester simple, mais elle ne voyait aucune raison de réagir autrement que par le silence. William, c'était une autre affaire. Il marmonnait, répétait deux ou trois fois le même mot avant de s'interrompre, comme s'il en cherchait un autre qui fût plus pertinent. « Nous avons toujours veillé à garder une ouverture, Nora, une ouverture. » Nora lui sourit. « Il faut dire, enchaîna Peggy, que certaines filles savent à peine orthographier l'anglais et additionner deux et deux. Mais pour ce qui est de l'insolence et de prendre des jours de congé, pardon. Allons, allons, dit William, allons. » Nora l'observa attentivement pour tenter de déceler si Peggy l'exaspérait lui aussi, mais il semblait trop distrait pour prêter la moindre attention à sa femme. Et l'allure de certaines d'entre elles. Elisabeth dit que... William l'interrompit. Thomas estime beaucoup mademoiselle Cavanna, la chef comptable, qui dirige d'ailleurs le service administratif. Il en sait plus long que moi. Et si je pouvais vous demander de voir les détails avec Thomas, les détails donc... Il s'interrompit en regardant Nora comme s'il ne savait pas trop quoi ajouter. Dieu sait, reprit-il, le regard rivé au tapis, que je suis seulement le gérant, le directeur de l'entreprise. Mais Thomas pourrait vous présenter à mademoiselle Cavanna. Et puis vous pourriez, vous voyez ce que je veux dire, commencer quand vous voulez, vous pourriez commencer quand vous voulez. Vous parlez de Francis Cavanna? J'imagine, oui, même si cela fait sans doute longtemps que personne ne l'a appelé ainsi. Oh, bien sûr, intervint Peggy, vous la connaissez. Thomas la porte au nu. Êtes-vous resté en contact? Pardon? Fit Nora glaciale. Je veux dire, êtes-vous resté amis, mademoiselle Cavanna et vous-même? La question impliquait que Peggy, elle, n'avait pas le loisir de se tenir informée de ces détails, ni de rester amie avec qui que ce soit. Nora se demanda néanmoins ce qu'elle savait. Si elle avait par exemple le souvenir d'un certain jeudi, vieux d'au moins 25 ans, l'épisode avait sûrement fait jaser à l'époque, où Greta et elle avaient décidé de profiter de leur demi-journée de congé pour se rendre à Bellaconiga à vélo. Francie Cavanna avait demandé si elle pouvait les accompagner. Elles avaient accepté, puis elles avaient accéléré jusqu'à la sommet et ensuite, au lieu de bifurquer vers Bellaconiga, elles étaient allées à Mallcastle. Et le lendemain, en apprenant qu'elle avait été victime d'une crevaison sur la route du retour, la nuit entre-temps était tombée, il s'était mis à pleuvoir à torrents, Francie avait dû se réfugier sous un arbre et n'était finalement rentrée qu'au petit matin. Au lieu de s'excuser, elle lui avait ri au nez. Francie Cavanna ne leur avait plus jamais adressé la parole après ce jour.
Thank you.
Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses petites brioches au lait. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.